Et le 15 et 22 juillet au ministère. Programmation et billetterie sur festivalnuitafrique.com.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Le visionnement de pornographie est pour être associé au mode de vie célibataire. Mais est-ce qu'on arrête réellement d'utiliser de la pornographie lorsque nous sommes en couple? Est-ce que sa consommation peut impacter notre relation amoureuse et notre sexualité? Est-ce que la pornographie peut être bénéfique ou nuisible à notre relation? Aujourd'hui, on parle sans tabou de la pornographie en couple avec une chercheure et clinicienne spécialisée sur l'utilisation de pornographie au sein des relations amoureuses. Restez avec nous! La série documentaire Désexifié. Mon nom est Marianne, je suis étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Montréal et je suis accompagnée de ma collègue Florence qui est étudiante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal également. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Pierre Vaillancourt-Morel, professeure adjointe au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également directrice du CERL Lab, laboratoire de recherche de la vie sexuelle et intime, et titulaire de la chaire de recherche UQTR sur la sexualité des couples. Elle a été récipiendaire en 2021 du prix Émergence en recherche de la Société québécoise pour la recherche en psychologie et du prix de la relève scientifique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux portent principalement sur la sexualité, le couple et les traumas, principalement sur les effets des traumas interpersonnels en enfance et l'utilisation de pornographie sur le bien-être sexuel des couples. Bienvenue Marie-Pierre.
Merci pour l'invitation, bien contente d'être là avec vous aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, on parle des impacts de la pornographie sur le bien-être sexuel des couples. D'abord et avant tout, avant qu'on se lance là dans le vif du sujet, à quoi on fait référence lorsqu'on parle de pornographie?
Oui, c'est une bonne question. Dans nos études, nous, en fait, on va avoir une définition qui est assez large, donc qui va inclure en fait tout matériel qui présente ou décrit une personne nue ou ayant des activités sexuelles. Donc, ça peut être dans des vidéos, donc sur les sites pornographiques, mais aussi dans des images, des photos ou même audio. Et ça peut également être là, tout ce qui est roman sexuellement explicite, donc par exemple 50 Shades of Grey ou même des podcasts sexuellement explicites.
Donc, la pornographie, ça inclut plusieurs types de médias. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires que d'autres?
Le type vidéo, là, donc vraiment les sites pornographiques où on voit vraiment des gens avoir des activités sexuelles de manière très explicite, c'est définitivement le plus populaire, autant chez les hommes, les femmes, les personnes de la diversité de genre. En fait, pas mal tout le monde qui utilise la pornographie va utiliser des vidéos puis avoir tendance des fois à le combiner avec un autre type de média.
OK, parfait. Donc, il n'y a pas de différence là, que ce soit entre les hommes et les femmes ou les personnes de la diversité.
Il va y avoir des différences, mais ces trois genres vont en utiliser les vidéos de manière plus prévalente. Donc, il y a certaines différences dans le sens où les hommes vont toujours utiliser, avoir des proportions plus importantes que les femmes. Donc, que ce soit vidéo, photo, matériel écrit ou audio, les hommes sont toujours plus élevés dans leurs proportions que les femmes. Mais vidéo reste le plus populaire là chez tout le monde, finalement.
OK. Puis là, tu parles de proportions en termes de peut-être prévalence, pourcentage. C'est quel pourcentage de la population peut-être qui rapporte utiliser de la pornographie?
Ben, si on regarde l'utilisation à vie, donc en avoir déjà utilisé une fois au cours de sa vie, dans la population générale, donc chez tout le monde, ça varie dans les études beaucoup, mais on se tient autour de 70 à 90 % là, quand on regarde pas selon aucune autre variable, pas selon le genre, c'est environ 70 à 90 %.
OK, quand même. Puis est-ce que c'est cette proportion-là ou ce pourcentage-là change chez les couples, tu sais, ou en fonction, là, tu dis tout au long de la vie, mais à certains moments, ouais, comment vous évaluez ce pourcentage-là, peut-être?
Oui. Ce qui arrive, c'est que quand on regarde spécifiquement chez les couples, là, souvent, on va plus regarder dans l'ensemble de la vie. Mm-hmm. On veut vraiment, depuis le début de votre relation de couple, ou nous, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va regarder plus dans les 3 derniers mois. Donc, vraiment, l'utilisation récente, souvent, ça fait au moins 6 mois qu'ils sont avec leur partenaire. Puis là, quand on regarde dans tout le monde qui est en couple actuellement, là, en fait, on a une étude récente dans laquelle on avait 700 couples, un peu plus. Et là, il y en avait 74% des participants qui avaient utilisé de la pornographie dans les 3 derniers mois. Donc, on se tient encore dans notre 70 à 90%. On est encore dans les mêmes chiffres. Donc, les gens en couple aussi continuent à utiliser de la pornographie.
Ah, c'est intéressant. Puis, est-ce que au niveau de l'âge, est-ce que ça varie beaucoup entre les tranches d'âge? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui utilisent plus de pornographie?
Oui. Puis là, souvent, on va voir en fait que autant dans la proportion de gens qui l'utilisent que dans la fréquence d'utilisation, parce que c'est deux choses différentes, on va voir un déclin avec l'âge. Donc, c'est pas que les personnes plus âgées utilisent pas de pornographie, c'est juste qu'il y a une moins grande proportion de ces gens-là qui en utilisent. Puis souvent, ils vont en utiliser moins fréquemment. Donc, souvent, c'est chez les jeunes adultes qu'on va voir la proportion la plus élevée. Puis, tranquillement, ça va continuer à diminuer. En même temps, on est encore un peu dans des effets de cohorte, si on veut, c'est-à-dire que la disponibilité de la pornographie, particulièrement en ligne, les personnes plus âgées l'ont peut-être pas connue dans leurs adolescences, dans leur début de l'âge adulte. Donc, ils n'ont pas nécessairement grandi avec cet accès-là à la pornographie. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de continuer, en fait, à suivre nos adolescents actuellement, puis voir si là, la proportion reste la même chez les personnes âgées.
Puis au niveau peut-être du genre, ça ressemble à quoi? Tantôt on mentionnait que les hommes en utilisent plus, mais est-ce en termes de pourcentage, ça ressemble à quoi ces différences-là? Puis est-ce qu'il y a des différences aussi avec les gens qui font partie de la diversité sexuelle et ou de genre?
Oui, si on regarde vraiment là chez les gens en couple, là, dans notre cohorte là, que je discutais tantôt de 700 couples, on voit une différence importante là, entre les hommes et les femmes, et on a aussi effectivement là, les personnes de la diversité de genre, c'est-à-dire que on avait 87% des hommes qui avaient utilisé de la pornographie dans les 3 derniers mois, 57% des femmes et 82% des individus de la diversité de genre. Donc on voit souvent les personnes de la diversité de genre vont ressembler un peu plus en termes de proportion et de fréquence d'utilisation aux hommes, et c'est les femmes qui vont avoir vraiment là, une proportion, mais aussi une fréquence plus faible que les hommes et les personnes de la diversité de genre. Ils ont aussi une utilisation là, qui est un peu différente là, en termes de contexte d'utilisation là, quand on compare les hommes et les femmes. Mais c'est en termes de fréquence qu'on voit la plus grande différence. La plupart des hommes en couple continuer à regarder de la pornographie au moins une fois par semaine ou même plus. Les femmes, ça va plus tourner autour de soit 2-3 fois par mois ou même là une fois par mois ou moins. Donc, on voit que c'est une utilisation qui est beaucoup moins régulière. Puis ça semble être plus de temps en temps, je vais me tourner vers la pornographie, mais c'est pas quelque chose qui fait partie à chaque semaine là de ma sexualité.
Ouais, puis c'est intéressant. Comment est-ce qu'on explique un peu que les gens qui font partie de la diversité vont ressembler plus aux hommes en termes, tu sais, de pourcentage que les femmes? On dirait que je trouve ça surprenant comme résultat.
Écoute, ça reste un résultat effectivement qui est pas surprenant, mais qui est quand même plus novateur, j'ai envie de dire. Fait que je pense qu'on comprend pas encore tous les mécanismes sous-jacents. Je pense quand même que la pornographie, normalement, quand c'est utilisé fréquemment par les hommes, va avoir des motivations différentes. Par exemple, beaucoup pour rechercher du plaisir sexuel. Donc, on va utiliser de la pornographie en même temps que la masturbation pour vraiment susciter l'excitation sexuelle. C'est fort possible, en fait, que les individus de la diversité de genre aussi l'utilisent davantage pour ces motivations-là. Donc, ça vient à une utilisation qui est plus fréquente, plus fréquemment associée à la masturbation aussi.
Tantôt, on parlait que avec le au niveau des couples, tu sais, que eux aussi utilisent quand même, tu sais, vont consommer de la pornographie même s'ils sont en couple. Puis on dirait que c'est un mythe que j'entends souvent, tu sais, que on dirait que les individus célibataires utiliseraient plus la pornographie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Puis qu'est-ce qui pourrait expliquer peut-être ce mythe-là, ou pourquoi les gens pourraient penser ça? Ouais.
Ben, je pense que t'as raison, que ça fait partie d'un mythe, en fait. Peut-être aussi un un mythe peut-être qui est en train de changer. Je pense que dans notre vision du couple, on s'attend à ce qu'une fois qu'on est en couple, la sexualité se vit uniquement avec le partenaire romantique, dans le fond, avec qui la personne avec qui on est en couple. Alors que la sexualité, de manière solitaire, peut aussi continuer. Et maintenant, la pornographie fait partie de la sexualité solitaire de la plupart des gens, qu'ils soient en couple ou pas, dans les faits. Donc, c'est un peu comme si ça en faisait partie avant que je sois en couple, de ma propre sexualité à moi, de ma façon de combler mes besoins sexuels par moi-même, ça continue à en faire partie aussi une fois en couple. Maintenant, il y a peut-être beaucoup de choses à discuter une fois rendu en couple par rapport à ça, mais les études qui ont comparé vraiment les gens célibataires aux gens en couple montrent en fait des fréquences très similaires, des proportions aussi très similaires. Des fois, c'est légèrement un peu plus élevé chez les gens célibataires, mais c'est probablement parce que à cette période-là, ils n'ont pas de partenaire régulier pour combler ces besoins sexuels-là, donc ils se tournent plus fréquemment vers la pornographie. Mais sinon, c'est relativement très similaire, donc ce serait un mythe là, dans les faits. Les gens en couple continuent à utiliser de la pornographie.
Puis on en a parlé un peu plus tôt, là, mais il y a plusieurs motivations à utiliser la pornographie dans la sexualité. T'as nommé justement celle liée à la masturbation. Donc, peux-tu en parler un peu plus? C'est au niveau individuel, pourquoi un individu serait motivé à avoir recours à la pornographie?
Oui, c'est une bonne question, en fait. La motivation principale, je l'ai déjà nommée, c'est vraiment pour le plaisir sexuel. Donc, c'est vraiment pour avoir... quand on passe aux vidéos, une stimulation, favoriser les fantasmes aussi. Donc, ce serait vraiment quand c'est associé à une stimulation pour avoir un orgasme. Ça, c'est la plus fréquente, surtout chez les hommes. Après ça, on a une autre motivation qu'on voit régulièrement aussi, puis encore là, plus fréquemment chez les hommes, c'est l'évitement émotionnel. Donc, je vais utiliser de la pornographie pour être moins en contact avec comment je me sens, une sorte de distraction de mon état interne, si on veut. Donc, par exemple, je reviens du travail, j'ai vécu beaucoup de frustration au travail, j'ai besoin de me distraire, je vais me tourner vers la pornographie pour avoir cette distraction-là, puis aussi cette espèce de relâchement physique-là qui vient avec l'orgasme, comme la porno est souvent associée à la masturbation. Cette motivation-là, souvent, on va dire qu'elle est moins saine. C'est un certain jugement, mais aussi c'est qu'elle est souvent associée à des conséquences plus négatives. Par la suite, on en a deux qui peuvent se ressembler un peu. On a la curiosité sexuelle. Donc, on a des gens qui vont aller voir de la pornographie vraiment dans un esprit de voir un peu d'autres gens avoir des activités sexuelles, voir quelles pratiques ils vont faire. Donc, vraiment dans un but de « je suis curieux, je vais avoir de l'information, de l'éducation, je vais aller voir de la pornographie ». C'est pas la plus fréquente. Puis elle est plus similaire entre les hommes et les femmes. On a aussi des gens qui vont vraiment juste rechercher l'excitation, l'espèce de sensation interne de quand je regarde la pornographie, puis ça m'amène des sensations internes, une excitation, mais que ce sera pas nécessairement pour amener un plaisir sexuel et l'orgasme. Donc, c'est un peu différent de l'autre. Puis, on a deux motivations plus récemment qu'on a commencé à regarder au sein de nos couples spécifiquement, c'est-à-dire une motivation qui est soit pour compenser la sexualité avec le partenaire, donc mon partenaire est à l'extérieur, il n'est pas disponible, donc j'utilise la porno pour compenser, ou mon partenaire a un désir sexuel plus faible que le mien, donc j'utilise la pornographie vraiment pour compenser ce décalage de désir. Et l'autre, c'est pour promouvoir la sexualité avec le partenaire. Donc, le plus fréquent, ce qu'on voit, c'est une utilisation en couple. Donc, les deux partenaires, on regarde la sexualité, de la pornographie ensemble. Puis, souvent, en même temps ou ensuite, on a de la sexualité. C'est une motivation qui est plus fréquente, elle, chez les femmes. Puis, ça peut être avec le partenaire, mais ça pourrait aussi être regarder de la pornographie pour me donner... augmenter mon désir sexuel, puis ensuite avoir de la sexualité avec mon partenaire. Donc ça, je dirais que c'est les deux motivations qui sont spécifiques au couple, donc qu'on regarde là, spécifiquement dans nos échantillons de couple.
C'est super intéressant. Donc, on voit que les motivations varient selon le type de relation, mais aussi selon le genre. Tu as parlé qu'il y avait certains types de motivations qui sont plus prévalents chez les hommes ou chez les femmes. Est-ce qu'on sait, au niveau des personnes qui appartiennent à la diversité sexuelle et ou de genre, s'il y a des motivations qui sont plus prévalentes?
Non, on ne l'a pas regardé encore. C'est très intéressant. Je dirais que, comme dans nos autres études, on s'attend en fait à ce que les personnes de la diversité de genre ressemblent plus aux chiffres chez les hommes ou sinon se situent souvent entre les deux, entre les hommes et les femmes. Mais on n'a pas d'études encore qui l'ont regardé là, spécifiquement dans cette population-là.
OK, très intéressant. Puis, est-ce que justement les motivations vont affecter l'impact que la pornographie peut avoir sur la sexualité?
Oui, puis ça, c'est une variable qui est importante à tenir en compte là, quand on regarde l'utilisation de pornographie chez les couples. Pourquoi les gens regardent? Parce que selon les raisons associées à regarder de la pornographie, c'est associé différemment à la sexualité des couples. Je dirais qu'en général, ce qu'on voit, là, comme j'ai un peu nommé tantôt, l'évitement émotionnel, c'est souvent associé à des effets négatifs sur la sexualité, donc une plus faible satisfaction sexuelle, une fréquence moins élevée de relations sexuelles avec le partenaire, alors que la curiosité sexuelle, elle, aurait des effets plus positifs, particulièrement chez les hommes, probablement parce que ben ils vont chercher de l'information, ils vont s'éduquer par rapport aux pratiques sexuelles, puis après, ils ramènent ça dans la sexualité avec le partenaire, donc là, ça amènerait des bénéfices là, sur la sexualité avec le partenaire. Normalement, le plaisir sexuel, là, il y a moins d'effets sur la sexualité avec le partenaire, donc c'est pas vraiment différent. Ça dépend probablement, en fait, de d'autres variables. Recherche d'excitation, même chose, là, il y a pas d'effet spécifique nécessairement. Donc, souvent, ce qu'on retient, c'est l'importance de regarder si la pornographie est faite dans un but d'éviter un état interne, les émotions, parce que là, ce serait peut-être un peu plus inquiétant.
C'est vraiment intéressant, puis j'ai l'impression qu'on entend souvent que le fait d'écouter de la pornographie, ça va influencer négativement la sexualité. Puis je me, notamment, tu sais, par ce qui est présenté, tu sais, les scripts ou une représentation peut-être plus ou moins réaliste de ce qui se passe réellement, tu sais, dans la sexualité. Donc je me demande, dans les faits, comment est-ce que ça vient influencer peut-être nos scripts ou la sexualité, tu sais, selon les recherches?
Oui, c'est une bonne question. Il y a un modèle là spécifique. Il y a, tu sais, parce que tu as fait référence au script. Ben effectivement, il y a un modèle théorique, là, le modèle 3AM, qui a appliqué la théorie des scripts sexuels à l'utilisation de pornographie. Puis ce qu'on voit, c'est que en regardant de la pornographie, dans le fond, on va acquérir certains scripts sexuels, c'est-à-dire que on va voir certaines pratiques, on va voir certaines attitudes par rapport à la sexualité, puis on peut se le dire, les scripts sexuels dans la pornographie, ça reste assez genré aussi, où est-ce que souvent l'homme est présenté en position de domination, femme en position de soumission, où est-ce qu'elle a énormément de plaisir, même dans la violence. Donc, il y a quand même certains scripts typiques qui sont véhiculés par la pornographie. Par la suite, souvent, ce qui va arriver, c'est que ces scripts-là vont être activés quand une situation avec un partenaire spécifique nous fait revenir ces scripts-là, si on veut. Et là, on va appliquer ce script-là de manière un peu rigide. Puis c'est là que c'est problématique. Là, c'est parce que c'est pas une mauvaise chose nécessairement que la pornographie pourrait influencer notre sexualité. C'est si c'est appliqué un peu sans regarder est-ce que l'autre partenaire aime ça, est-ce que moi j'aime ça, sans se questionner un peu sur est-ce que ce script-là est conforme à la réalité. Et c'est là qu'on voit en fait que la pornographie est pas du tout souvent conforme à la sexualité dans la vraie vie. Et c'est là qu'il y a un travail d'éducation à faire aussi, particulièrement chez les adolescents, les jeunes adultes, où la sexualité est encore en développement, sont encore en recherche de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis c'est là où il faut pas que ce soit uniquement basé sur ce qu'on voit dans la pornographie, parce que c'est pas nécessairement là, représentatif.
Ah, c'est tellement intéressant. Puis je me demande, est-ce que c'est les scripts présentés, ça varie en fonction du type de médias? Tu sais, on parlait des podcasts ou des livres versus les vidéos. Tu sais, est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là dans les scripts qui sont présentés?
Oui, on pense que oui. Je dirais pas qu'on est certain à 100%, mais je dirais que les médias pornographiques moins explicite. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple le matériel écrit, donc les livres sexuellement explicites, mais probablement aussi les podcasts sexuellement explicites. C'est juste qu'ils sont moins utilisés encore, donc on en entend moins parler. Probablement que ces médias-là qui sont moins explicites laissent beaucoup plus de place à l'imagination. impose moins des scénarios sexuels très restrictifs. Donc, quand on regarde un vidéo pornographique, on voit des gestes très spécifiques. Il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination. Il n'y a pas de place à « oh, je vais m'imaginer le geste que moi, je le sais, mais que c'est plus. » Et c'est là qu'on voit aussi effectivement que souvent, c'est le média vidéo et images, là, donc des photos, qui seraient liées dans les faits à une moins bonne satisfaction sexuelle et conjugale. Puis, notre interprétation de ce résultat-là, c'est effectivement ta question, là, de dire ben probablement que là, le script sexuel est plus imposé faisant référence un peu à l'imagination puis au fantasme de l'utilisateur.
Puis on a parlé là, des conséquences un peu plus individuelles sur la sexualité, mais on entend aussi l'idée que la consommation de pornographie constituerait une menace pour les relations amoureuses. Est-ce que c'est vraiment le cas?
C'est une bonne question. C'est un sujet très polarisé et polarisant, j'ai le goût de dire. On voit beaucoup d'articles de journaux, on voit beaucoup de choses sur Internet comme de quoi la pornographie serait vraiment néfaste là, pour les relations de couple. Quand on regarde la recherche, par exemple, sur ce sujet-là, c'est beaucoup plus mitigé, c'est mix. Ce qu'on voit, on voit des effets négatifs là sur les couples, mais particulièrement pour l'utilisation de l'homme, où souvent l'homme va rapporter lui-même une plus faible satisfaction conjugale, donc va être moins satisfait de sa relation de couple, va être aussi être moins satisfait de sa sexualité, et souvent là où la partenaire également va être moins satisfaite de sa sexualité ou de sa relation de couple. C'est certain que ce qu'on pense, c'est que c'est pas nécessairement l'utilisation de l'homme qui est très problématique, mais probablement plus le contexte dans lequel il l'utilise. On a parlé des motivations, il y a d'autres variables de contexte qui sont associées plus spécifiquement à l'utilisation des hommes, puis qui expliqueraient probablement pourquoi eux, précisément, leur utilisation a des effets négatifs sur le couple. Mais il y a aussi des effets positifs qu'on a recensés là, dans certaines études. On parle d'une meilleure communication entourant la sexualité, une plus grande ouverture à la sexualité, plus de désir sexuel, mais surtout, on recense très peu d'effets négatifs pour l'utilisation de la femme. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là à comprendre dans la façon dont la femme l'utilise. Tantôt, on a parlé de la fréquence d'utilisation qui était très différente. Ce n'est peut-être une des variables qui explique ça. Et souvent, c'est des effets qui n'ont pas nécessairement lieu la même journée. Donc, c'est pas parce que j'en ai regardé aujourd'hui que je suis moins satisfaite la même journée. C'est probablement plus une accumulation de l'utilisation au fil du temps là qui a des effets plus négatifs. Mais encore là, pour l'utilisation de l'homme, pas nécessairement l'utilisation de la femme.
OK, c'est intéressant. Fait qu'il y a vraiment des différences de genre. Tu as nommé qu'une des raisons, c'est la fréquence d'utilisation. Il y avait les motivations aussi. Est-ce qu'il y a des raisons qui sont plus sociales, tu sais, au niveau des idées qui sont véhiculées dans la société par rapport à la sexualité des hommes et des femmes?
C'est intéressant. Fort probablement. On regarde beaucoup, parce que tu fais un peu référence aux attitudes dans la société en général. Nous, on regarde aussi beaucoup les attitudes dans le couple. Dans les faits, c'est beaucoup plus acceptable, ben, socialement, tu as raison également, pour un homme d'utiliser de la pornographie que pour une femme, encore de nos jours. Et donc, probablement que les femmes qui en utilisent dans un contexte où il y a peut-être un peu plus de honte associée, mais probablement qu'elles en utilisent aussi peut-être plus pour promouvoir la sexualité avec le partenaire, comme on a parlé dans les motivations tantôt. C'est certain aussi que, oui, on parle des attitudes, mais il y a aussi, justement, comme je le disais un peu, là, la façon dont les hommes utilisent la pornographie. Souvent, l'utilisation problématique, vraiment, là, quand c'est associé à des conséquences négatives, par exemple, une altération du fonctionnement ou de la détresse psychologique, donc vraiment une utilisation qu'on va dire compulsive ou problématique. Ça, on le voit plus fréquemment chez les hommes, puis on le voit même chez les hommes en couple. Donc, c'est certain que quand c'est problématique, que c'est pas une utilisation qu'on va plus qualifier de saine ou récréative, comme c'est plus prévalent chez les hommes, cette utilisation problématique-là, c'est pas surprenant qu'il y ait plus de répercussions négatives chez les hommes spécifiquement. C'est quelque chose qu'on voit moins chez les femmes, l'utilisation problématique, ou du moins la proportion est très faible. Donc, ça pourrait aussi expliquer là, au-delà des attitudes, plus spécifiquement la façon dont les différences de genre, en fait, les hommes et les femmes ici, là, utilisent la pornographie.
Tu as parlé un peu plus tôt là, des impacts sur le désir sexuel. Est-ce que la pornographie peut avoir justement des impacts sur la fonction sexuelle, comme le désir ou la lubrification?
Oui, ça c'est un gros débat dans la littérature actuellement, où est-ce que les journaux populaires, j'ai le goût de dire, ont tendance à blâmer beaucoup la pornographie, surtout l'explosion de l'utilisation de pornographie, à une espèce d'hausse de dysfonction sexuelle ou dysfonction érectile là, spécifiquement chez les hommes. Ce résultat-là n'est pas nécessairement appuyé par la littérature actuellement, par les études, où est-ce qu'on voit surtout des études là, qui montrent que c'est pas associé en fait aux dysfonctions érectiles. Nous, on a fait une étude que j'ai parlé tantôt là, avec les journaux quotidiens. Donc, à tous les couples, à tous les jours, on demande aux gens est-ce qu'ils ont utilisé de la pornographie. Et on a regardé vraiment, premièrement, les liens avec le désir sexuel. Puis c'est là où, premièrement, c'est intéressant. On voit que, en fait, les jours où les femmes ont utilisé de la pornographie, elles rapportent plus de désir sexuel et leurs partenaires également. Donc, probablement que ça crée une espèce de climat érotique où les deux partenaires sont plus excités et ont plus de désir. Alors que quand l'homme en utilisait, là où la partenaire rapportait moins de désir. Et ce résultat-là s'explique probablement que là où la partenaire avait moins de désir, donc l'homme a eu recours à de la pornographie pour combler ce décalage de désir-là. On a aussi regardé, là, je sais que tu as parlé de fonction, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi le lien avec le « est-ce que j'ai eu de la sexualité aujourd'hui ou pas? » Et là, on avait un résultat en fait très intéressant où est-ce que les femmes qui étaient en couple, soit avec un homme ou une femme, donc autant les femmes en couple de même sexe ou de sexe mixte, mais aussi les hommes en couple avec un autre homme, eux rapportaient plus de chances d'avoir eu une activité sexuelle avec lui ou la partenaire la même journée. Donc, avoir utilisé de la pornographie, dans les faits, pour ces couples-là, ça l'amenait aussi de la sexualité avec le ou la partenaire. Alors que chez les hommes en couple avec une femme, là, il y avait moins de chances d'avoir eu une activité sexuelle. Donc, ça semble spécifique au couple qu'on va dire hétéro, que là, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur est-ce que par la suite ou en même temps, j'ai une activité sexuelle avec mon partenaire. Puis quand on regarde vraiment la fonction sexuelle, c'est-à-dire que on a pris les jours seulement où les couples avaient utilisé de la pornographie et avaient eu de la sexualité avec leur partenaire la même journée. Peut-être que vous vous dites ça n'arrive jamais, mais en fait, c'était environ 50% de nos couples. Donc, il y a eu de la pornographie et il y a eu de la sexualité la même journée avec le partenaire. Ça reste quelque chose qui est assez, qui est plus fréquent en fait que ce qu'on s'attendait. On s'attendait pas à pouvoir regarder ça spécifiquement. Puis ces journées-là où il y a eu de la porno, ça n'influençait pas la satisfaction sexuelle par rapport à ces activités là avec le partenaire, mais ça n'influençait pas du tout la fonction sexuelle pendant l'activité sexuelle, même si l'utilisation de porno avait lieu la même journée. Donc ça n'influençait pas la capacité de l'érection, ça n'affectait pas la capacité orgasmique et en fait les femmes avaient une meilleure lubrification. Donc ça avait un effet positif chez les femmes, ce qu'on s'explique par probablement qu'il y a eu l'utilisation de porno avant, donc une espèce d'augmentation du désir qu'on a parlé tantôt, un peu plus d'excitation, donc une meilleure lubrification pendant l'activité sexuelle avec le partenaire par la suite. Et chez les hommes, ça avait vraiment aucun effet, là, c'était pas associé à aucune des composantes de la fonction sexuelle. Donc, comme ça a eu lieu vraiment la même journée, c'est un peu une étude assez novatrice pour vraiment regarder, OK, mais est-ce que ça a des conséquences directes la même journée?
OK. Fait que ça serait vraiment un mythe, justement, la croyance populaire que, justement, l'utilisation de pornographie, ça va automatiquement nuire à la fonction sexuelle. Ultimement, dans les études, c'est pas nécessairement ceux qui vont voir.
Exactement. Souvent, on va voir que c'est pas l'utilisation en tant que telle de pornographie qui a des effets négatifs, mais plus d'autres variables de contexte entourant l'utilisation de pornographie.
Étant donné qu'il y a des résultats quand même assez mixtes, par rapport, il peut y avoir des effets positifs, des effets plus négatifs, comment on navigue tout ça? Est-ce que c'est davantage favorable ou est-ce que c'est plus nuisible, tu sais, puis qu'est-ce qui va faire cette différence-là? Ou peut-être, c'est quoi les questions que les gens pourraient se poser, tu sais, à ce niveau-là, de voir, est-ce que moi, ça m'amène plus d'effets négatifs, positifs? Ouais, qu'est-ce qui fait cette différence-là, peut-être?
Je pense que ce qu'on aime regarder, en fait, c'est tout ce qui est le contexte entourant l'utilisation. On a parlé premièrement de l'utilisation problématique ou pas. Donc, est-ce que mon utilisation fait que j'ai moins de sexualité avec mon ou ma partenaire? Est-ce que ça altère mon fonctionnement? Est-ce que j'aime mieux regarder de la pornographie plutôt qu'aller sortir avec mes amis? Est-ce que c'est associé à de la détresse? Pour moi, ou pour mon partenaire aussi. Mmh. Fait que tout ce qui est l'utilisation problématique, c'est un des contextes qu'on veut se questionner par rapport à son utilisation de pornographie. On a parlé des motivations, donc c'est quoi les raisons pour lesquelles j'utilise la pornographie? Est-ce que c'est des raisons qui sont associées à la pornographie, comme le plaisir sexuel, promouvoir la sexualité avec mon partenaire, ou c'est des motivations qui sont plus de l'ordre de la gestion des émotions ou de rechercher quelque chose que j'ai pas avec mon partenaire? Là, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, je pense qu'il faut se questionner à pourquoi j'en utilise. On n'a pas parlé encore, mais il y a tout aussi l'utilisation solitaire versus en couple. Donc, normalement, quand on utilise en couple avec le partenaire, il y a aucun effet négatif ou très peu qui sont recensés dans les études actuelles, alors que c'est plus l'utilisation uniquement solitaire qui va être associée à des effets négatifs quand on en trouve. Il y a aussi tout le contexte de le grand décalage dans la fréquence d'utilisation de la pornographie entre les deux partenaires. Puis ça, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, que ce serait plutôt dans les couples où justement il y a un partenaire qui en utilise et pas l'autre, qui aurait des effets négatifs, ou un partenaire qui en utilise énormément puis l'autre qui en utilise presque pas. Ce serait plus dans ce contexte-là qu'il y aurait des effets négatifs sur le couple. Puis en même temps, ce décalage-là est souvent associé aux attitudes là, qu'on a déjà parlé dans le partenaire. Donc, s'il y a un partenaire qui en utilise, puis l'autre qui a des attitudes très négatives par rapport à la pornographie, là, souvent, ça va avoir des effets négatifs. Alors que si les deux ont des attitudes plutôt positives ou neutres, là, souvent, on voit pas d'effet. Puis je dirais que le dernier contexte, si on veut, qui serait important à se questionner, c'est toute la communication entourant l'utilisation de pornographie dans les couples. Est-ce que mon partenaire est au courant que j'en utilise ou pas? C'est un peu ça la question à se poser là, pour répondre à ta question. Est-ce qu'il est au courant en général que c'est acceptable d'en regarder, ou au contraire, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé puis qu'on aime peut-être mieux pas aborder? Là, souvent, c'est un sujet un peu tabou. Donc, je pense que ça, c'est toutes des questions à se poser par rapport au contexte de comment la pornographie est utilisée dans notre relation de couple.
Concernant le dernier contexte que tu as mentionné là, par rapport à si l'utilisation de pornographie, c'est un secret dans le couple ou si au contraire, tu sais, c'est communiqué de façon ouverte, mais qu'est-ce qui pourrait amener un partenaire à ne pas parler ouvertement de sa consommation de pornographie?
Bien, je pense qu'une des premières choses qui fait qu'on en parle peu, c'est premièrement le fait que c'est un sujet plutôt tabou, puis qu'on sait pas encore trop si c'est acceptable ou pas d'en utiliser en couple. Donc, un peu comme tous les sujets liés à la sexualité, la pornographie, ça reste un sujet qui est peu discuté. On peut avoir peur de la réaction du partenaire. Donc, si je lui dis en fait que j'en utilise, comment ma partenaire va réagir? Est-ce que elle va considérer ça comme une infidélité, comme une tromperie? Est-ce qu'elle va se questionner par rapport? Est-ce que c'est parce qu'elle me satisfait pas, parce qu'elle est pas à la hauteur, il ou elle est pas à la hauteur de ce que je regarde dans la pornographie? Donc, la réaction du partenaire est souvent une des raisons aussi. Il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de pornographie qui ont honte de leur propre utilisation. Donc, c'est pas parce qu'ils en utilisent qu'ils ont nécessairement des attitudes positives par rapport à la pornographie. Puis ça, souvent, ça crée plus des difficultés. Là, quand on utilise la pornographie, mais en même temps, on a des attitudes négatives par rapport à la pornographie, souvent, c'est associé à beaucoup d'émotions négatives là, entourant son utilisation. Donc, je pense que c'est les principales raisons qui font que on n'a pas toujours envie d'amener ça sur la table, puis de prendre le temps en fait d'en discuter ensemble, puis de voir c'est quoi les limites de chacun par rapport à son utilisation.
Est-ce qu'il y a des études justement qui ont été faites sur les réactions des individus quand ils découvrent par exemple une utilisation de pornographie chez leur partenaire?
Oui, je pense qu'il faut quand même nuancer un peu ces études-là dans le sens où la plupart des études qui ont été faites c'est comment les femmes réagissent à l'utilisation de pornographie problématique du partenaire masculin. Donc c'est très genré comme étude, puis surtout c'est pas la découverte d'une utilisation qui est plus récréative. Donc c'est pas je viens de découvrir que mon partenaire a regardé de la pornographie deux fois dans les dernières semaines. c'est plus une sation qui est très excessive. Là, ce qu'on voit dans ces études-là, quand même, c'est très intéressant, c'est que ces femmes-là ont souvent le sentiment d'avoir été trompées, en fait. Mm-hmm. Les émotions qu'on va remarquer chez ces femmes-là, c'est les mêmes émotions, les mêmes réactions qu'on verrait chez des femmes qui rapportent avoir découvert une infidélité. Donc, vont rapporter beaucoup de sentiments de trahison, de colère, beaucoup de ressentiments par rapport à l'utilisation de pornographie. Il y a aussi des émotions qui ressemblent à des femmes qui ont découvert une addiction chez leur partenaire, l'addiction au jeu, l'addiction à l'alcool. Donc, c'est aussi des émotions qui peuvent ressembler à ça. Et il y a aussi souvent beaucoup de honte chez ces femmes-là. La honte ou l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été capable de satisfaire son partenaire sexuellement, alors que souvent, ça parle pas du partenaire en tant que tel, mais plutôt de l'utilisateur, sa façon de gérer sa sexualité et ses émotions.
Mm-hmm. Puis je suppose qu'il y a aussi qui entre en jeu la conception de l'infidélité. Par exemple, il y a des personnes qui vont penser que le fait que son partenaire consomme la pornographie en ligne, c'est pas nécessairement des comportements infidèles. D'autres vont penser que oui. Donc, c'est quoi en fait l'infidélité en ligne?
Mais l'infidélité en ligne, j'ai le goût de dire, c'est à définir pour chaque couple, dans le sens où il y a des gens qui vont considérer effectivement que voir une autre personne nue, c'est en dehors de leur règle de fidélité. Puis ça, c'est tout à fait acceptable. Puis il y a d'autres couples ou d'autres personnes qui vont plutôt juger que l'infidélité en ligne, c'est lorsque il y a une vraie personne disponible, une vraie interaction avec une autre personne. Donc, par exemple, avoir des conversations vidéo chat là, en ligne avec une vraie personne qui va être nue. Puis ça, c'est intéressant parce que ça, dans les faits, nous, on l'exclut de notre définition de la pornographie, très spécifiquement là dans nos études. C'est écrit que quand c'est avec une autre personne réelle avec qui on a des interactions, là, ça fait pas partie de la pornographie. Donc, j'ai le goût de dire, c'est quoi une infidélité en ligne? C'est à vous de le définir dans votre relation avec votre partenaire. Puis c'est important de le définir parce qu'on veut pas avoir des gestes qui, pour nous, c'était pas considéré une infidélité en ligne, mais finalement, pour le partenaire, ça l'était. Donc, les règles de fidélité sont importantes à définir par rapport à l'utilisation là, d'Internet aussi maintenant.
Mm-hmm. Donc, ce qui est important finalement, c'est de communiquer ouvertement avec son partenaire là, là-dessus.
Mm-hmm. Tu parlais un peu en lien avec l'utilisation plus secrète là, de la pornographie. Je me demande, tu sais, qu'est-ce qui est préférable à ce niveau-là? Est-ce que c'est d'en parler à toutes les fois, tu sais, qu'on utilise? C'est quoi les impacts que ça peut avoir au niveau du couple, tu sais, le fait que ça reste secret ou que c'est dévoilé, tu sais?
C'est une bonne question. On a une étude là, dans laquelle on a vraiment demandé à tous les jours, pendant 35 jours, aux gens, avez-vous utilisé de la pornographie aujourd'hui? Puis s'ils en avaient utilisé, on leur a demandé est-ce que votre partenaire est au courant, oui ou non, que vous avez regardé de la pornographie aujourd'hui. Donc ça reste que c'est une étude très spécifique parce que c'est pas parce que tu l'as pas dit à ton partenaire aujourd'hui que tu as utilisé de la pornographie qu'il le sait jamais. Donc c'est quand même à nuancer. Mais quand l'utilisation, puis là on parle d'utilisation solitaire, donc tout ce qui est utilisation en couple, c'est sûr que c'est connu, tu l'as utilisé avec ton partenaire, donc ça c'est vraiment exclu. Quand c'est une utilisation qui est solitaire, donc faite de manière seule et qui est pas connue par le partenaire, c'est là qu'il y aurait plus des effets négatifs la journée même, donc une satisfaction conjugale, une intimité, donc à quel point tu te sens proche de ton partenaire, à quel point tu sens qu'il répond à tes besoins, puis tu dévoiles tes émotions. Ça aussi, c'était plus faible la même journée. Puis même la satisfaction conjugale a été plus faible en général. Donc, quand c'est pas connu du partenaire, c'est là qu'on voit quelques effets négatifs. Quand c'est connu, là, je dirais que les effets sont plus mitigés. On voit une intimité qui est plus élevée sur un an. Mais le partenaire, lui, rapporte une intimité qui est plus faible sur un an. Donc, ça a des effets positifs sur la personne qui a utilisé la pornographie, mais des effets plus négatifs sur là où la partenaire. Puis je pense que là, on aura un travail à aller décortiquer un peu plus, de parler de comment c'est discuté. Ça a été quoi la réaction du partenaire lorsqu'on le dévoile? Donc, je pense pas qu'il faut retenir qu'il faut systématiquement dire son utilisation de pornographie à chaque jour quand c'est fait. Mais je pense qu'il faut avoir des règles générales peut-être de est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle à chaque fois? Est-ce qu'on en parle de temps en temps? Est-ce qu'on se met au courant? Ou est-ce qu'au contraire, on le sait qu'on en utilise, mais ça fait partie un peu de notre jardin secret. Puis c'est correct qu'on en utilise chacun de notre bord, puis que ce soit pas dit à chaque fois. Mais c'est ça. Des fois, on voyait dans les études ce qu'on sait pas nous fait pas mal. Là, même si c'est inconnu, on voit des effets négatifs, puis probablement que ça se passe dans la façon de se relier à l'autre, parce que là où la partenaire est pas au courant là, qu'il y a eu utilisation de pornographie aujourd'hui, mais il y a quand même des effets négatifs sur le couple. Donc, dans sa façon de se relier à l'autre, dans la façon d'initier les activités sexuelles, dans sa réponse sexuelle, dans la sexualité, il y a probablement des indices qui font que ben il y a des effets négatifs, même si c'est pas connu. En fait, c'est là qu'il y a des effets négatifs. Puis ça rejoint un peu aussi là toutes les études sur le secret en général. Donc, en général, garder des secrets dans les couples, c'est associé à des conséquences négatives. Donc, c'est pas surprenant dans les faits que ben la pornographie fasse aussi partie de ces secrets-là.
C'est tellement intéressant parce que c'est fou, t'sais, la personne est même pas au courant qu'elle ne sait pas quelque chose, t'sais, puis il y a quand même des effets, t'sais, c'est assez impressionnant.
Tout à fait. Puis c'est là aussi où, tu sais, on a parlé de beaucoup de résultats aujourd'hui, beaucoup d'études. On est encore aussi quand même plutôt dans des, ce qu'on va dire, des corrélations. Donc, c'est associé. Est-ce que ça se peut que les couples qui vont moins bien, justement, j'ai moins tendance à aller le dévoiler à mon partenaire puis à le dire systématiquement? Ça se peut. Mais du moins, ce qu'on en retire, c'est que ben peut-être que pas le dire n'est pas nécessairement la meilleure carte à jouer là dans leur utilisation de pornographie chez les couples.
Puis j'entendais quand même que il y a besoin d'avoir plus d'études là au niveau de comprendre un peu le type de réaction puis comment c'est fait la journée même versus en général, mais je me demande, tu sais, au niveau de plus tes hypothèses cliniques ou tu sais, comment tu penses que la réaction ou comment qu'est-ce que tu t'attendrais de ce genre d'études là peut-être qu'est-ce qui est une meilleure réaction? Ouais, je sais, j'en sais comme ça assez large là, mais
oui, mais je pense que les couples doivent savoir que ça reste un sujet qui peut faire réagir. Puis on a d'ailleurs une étude là, portant sur la jalousie entourant l'utilisation de pornographie. Donc, ça peut susciter des sentiments de jalousie chez le partenaire. Et dans ce contexte-là, faut quand même, oui, on dévoile, si on veut, son utilisation de pornographie, mais il faut aussi être sensible à la réaction du partenaire. Ça peut... ça pourrait susciter de l'excitation, puis ah oui, tu avais du désir sexuel, puis il y a même des couples chez qui ça peut susciter des discussions intéressantes sur le contenu qui a été utilisé. Mais en général, ce qu'on voit plus, c'est des réactions un peu plus négatives de doute par rapport à son estime de soi, de est-ce que ça remet la relation en question. Et donc là, c'est d'être aussi très sensible à ces réactions-là, puis dans l'accueil de ces réactions-là, puis de prendre le temps de discuter de ce que ça fait vivre à l'autre, puis de l'accueillir là dans ses émotions-là.
Oui, puis dans le fond, tu parlais un peu de l'impact que ça peut amener de la jalousie, tu sais, au sein du couple en lien avec l'utilisation de pornographie. Fait que je sais pas si tu pourrais en parler un peu plus.
Oui, en fait, effectivement, la jalousie peut, la pornographie peut amener de la jalousie un peu comme une troisième personne, un peu comme on s'imagine qu'on peut être jaloux de la coloc de notre chum, par exemple. Ben, la pornographie peut représenter un peu cette coloc-là, une troisième personne qui pourrait un peu nous voler notre partenaire, si on veut. Donc, ça amène exactement les mêmes sentiments de jalousie qu'une autre personne. Puis ce qu'on voit dans... une étude qui a été faite, puis nous, on est en train de regarder les effets spécifiques là, dans nos cohortes de couple. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il peut avoir comme trois grandes dimensions de la jalousie. Premièrement, on peut voir la pornographie comme une menace à notre relation. Donc, par exemple, comme l'infidélité, ce serait une forme de tromperie, ce serait me rejeter. Donc là, ça serait vraiment que ben si ma partenaire utilise la pornographie, ça menace ma relation de couple avec cette personne-là. Ça peut aussi être lié en fait à un certain dégoût par rapport à la masturbation. Donc ça, c'est une jalousie qui est différente de la menace à la relation. Ce serait plus en fait le fait que ce serait que la personne se serait masturbée ou qu'il y a une sexualité solitaire qui dérangerait puis qui amènerait de la jalousie. Donc ce serait pas nécessairement la pornographie en tant que telle, mais plus la sexualité solitaire sans moi. Je me sens comme exclue de la sexualité de l'autre qui amènerait de la jalousie. Puis finalement, le troisième sentiment de jalousie qu'on a remarqué, ça peut être aussi lié à l'estime de soi. Donc, je me sentirais moins attirante, mon estime de soi en souffrirait, je me sentirais moins bonne, moins valable. Puis ça m'amène des sentiments de jalousie parce que je m'imagine que la pornographie est meilleure que moi et plus attirante, les corps sont plus beaux, je suis pas à la hauteur de ça. On voit ces trois sentiments de jalousie-là qui sont différents. Puis ce qu'on voit dans notre étude en cours là, qui est menée par une de mes étudiantes au doctorat, c'est que ce serait spécifiquement la jalousie par rapport à la menace à la relation qui serait associée là, à des conséquences négatives, à des associations en fait négatives sur la satisfaction conjugale. Donc, je pense que c'est important à tenir en compte, de regarder comment les couples se sentent par rapport à l'utilisation de leur partenaire, puis porter une attention particulière à est-ce que tu sens que c'est une forme de tromperie, que tu te sens rejeté, que ton partenaire pourrait te quitter pour cette personne-là, parce que ça te fait vivre un peu des sentiments d'abandon au final.
Donc, l'attachement aussi peut peut-être jouer un rôle, je suppose, dans les types de jalousies là, qu'on va retrouver.
Oui, probablement. Puis ça, on ne l'a pas regardé encore, mais il y a une étude, en fait, qui a montré que l'utilisation de pornographie dans les couples, c'est associé à des effets négatifs, particulièrement lorsqu'il y a de l'anxiété d'abandon dans un des partenaires. L'anxiété d'abandon, l'impression que avoir une image négative de soi, son partenaire, douter des sentiments que son partenaire a pour soi. Donc, ça rejoint probablement plus la jalousie entourant la menace à la relation et donc probablement lié fortement là, à l'anxiété d'abandon là, dans les dimensions de l'attachement.
Je me demande, là, on a parlé beaucoup des différents impacts que ça peut avoir, autant positifs, négatifs, puis on dirait, je me dis, comment est-ce qu'on peut limiter ces impacts négatifs-là, d'avoir une utilisation peut-être plus saine de la pornographie, ça serait quoi tes recommandations plus à ce niveau-là?
Bien, je pense, si on sort un petit peu momentanément des couples, il y a aussi une première étape, je pense, qui est une éducation par rapport à l'utilisation de pornographie là, dès l'adolescence. Je pense que l'utilisation de pornographie en tant que telle à l'adolescence n'est pas nécessairement problématique ou pas nécessairement des impacts négatifs si c'est associé à une éducation sexuelle par rapport à ce que vous voyez dans la pornographie. C'est pas représentatif de la sexualité dans la vraie vie. Donc, faut s'assurer que c'est pas la seule place où on crée les scripts sexuels auxquels on a parlé tantôt, puis c'est pas non plus la seule source de plaisir. Puis pourquoi je retourne aussi loin un peu avant la création du couple en tant que tel, puis des possibles recommandations par rapport au couple, c'est que par la suite, ces adolescents-là vont être nos personnes en couple qui vont former des relations de couple, qui vont avoir de la sexualité avec un partenaire amoureux plus régulier. Et si ces scripts sexuels sont basés uniquement sur la pornographie, puis que ça se développe dans nos premières interactions sexuelles, ben c'est sûr que par la suite, c'est plus difficile à changer une fois dans les couples. Donc, je pense que ma première recommandation, si on veut, c'est vraiment de débuter avec de l'éducation par rapport à c'est quoi de la pornographie, ça sert à quoi, puis pas de le démoniser puis de dire faut absolument pas que vous en utilisez, parce qu'on le sait, les adolescents en utilisent. Donc c'est plutôt de l'accompagner avec une éducation par rapport à c'est quoi la pornographie, puis comment c'est représentatif ou pas de la sexualité.
Puis cette éducation là, est-ce qu'elle devrait être faite par l'école comme dans des cours d'éducation à la sexualité? Est-ce que ça se fait par les parents?
C'est une bonne question. Je pense que ça devrait être un travail d'équipe. Mm-hmm. Je pense pas que l'éducation sexuelle doit uniquement reposer sur les écoles, mais ça reste que tous les parents ne sont pas équipés de la même façon pour faire l'éducation à la sexualité. Donc, je pense que on peut avoir comme société le mandat de dire ben il y a une partie de l'éducation sexualité un peu plus générale qui se fait à l'école. Puis après ça, c'est aussi la responsabilité des parents de reprendre certains contenus ou de reprendre certaines thématiques avec lesquelles ils sont plus à l'aise, puis de prendre le temps d'en parler avec son adolescent. C'est pas facile pour tous les parents, c'est pas tous les parents qui sont à l'aise, mais c'est important d'au moins ouvrir le dialogue avec son adolescent, de savoir au moins que l'adolescent sache que s'il y a des questions par rapport à ce qu'il a vu dans la pornographie, s'il a été choqué par certaines choses qu'il a vues, ben il peut faire un retour avec son parent, prendre le temps d'en discuter, puis de de vérifier est-ce que c'est effectivement la sexualité ou pas. C'est un peu ça le point, là, de s'assurer qu'ils comprennent que ça reste dans le domaine du fictif, un peu comme les jeux vidéo, si on veut.
Mm-hmm. Donc, de commencer l'éducation le tôt dans la vie. Super. Puis, ça serait quoi tes recommandations cliniques là, si une personne veut justement intégrer la pornographie dans sa sexualité? On a parlé tantôt pour une personne en couple, ben ça serait aussi d'en discuter ouvertement avec son partenaire. Est-ce que tu as d'autres recommandations?
Ben, je pense que la base, tu viens de le nommer, là, c'est vraiment de prendre le temps d'en parler. C'est quoi les limites de chacun? Puis je dirais assez tôt dans le développement d'une relation de couple, faut discuter des limites de fidélité. Ben, là-dedans, faudrait inclure aussi les limites par rapport à, je dirais même l'utilisation d'Internet en général. Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce que c'est correct, par exemple, de parler avec une autre, un partenaire de l'autre sexe ou du même sexe selon notre orientation? Est-ce que c'est acceptable si c'est déjà une amie ou si c'est une nouvelle amie? Donc, il y a beaucoup de limites maintenant à discuter avec sa partenaire. Puis la pornographie doit en faire partie. Est-ce que, comment tu réagis si je regarde la pornographie, si on la regarde ensemble? Est-ce qu'il y a certaines règles en termes de fréquence? Est-ce qu'il y a certaines règles en termes de contenu? Est-ce que faut que je te le dise à chaque fois? Donc, est-ce que ça doit être vraiment comme je me rapporte à toi à chaque fois que j'en utilise? Ou est-ce qu'on a la discussion de temps en temps? Ou effectivement, comme on disait tantôt, tu veux pas le savoir? Je pense que... Puis cette discussion-là doit être une discussion peut-être pas de juste une fois, mais plutôt une discussion continue. Ça peut aussi évoluer au fil du temps dans le couple. Puis l'objectif, c'est pas non plus que... un partenaire impose à l'autre ses règles, mais c'est plutôt aussi d'y aller avec les réactions de chacun, mais aussi les besoins de chacun. Donc, on le voit souvent dans les couples où il y a un grand décalage, ce qui est la plupart des couples, là, où est-ce qu'il y a un certain décalage de désir sexuel. Je pense que dans ces couples-là, c'est important de prendre le temps d'en discuter de comme est-ce que la pornographie peut être une façon de combler ce décalage. Donc, quand mon partenaire n'a pas envie, là, je me tourne vers la masturbation avec l'utilisation de pornographie. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est acceptable? Est-ce que je dois avoir essayé d'avoir une relation sexuelle avec mon partenaire avant ou je peux me tourner directement vers la pornographie? Donc, c'est beaucoup de discussions sur les réactions de chacun, puis c'est probablement des discussions qui doivent avoir lieu à plusieurs reprises parce que on va faire des erreurs, puis après ça, on revoit la réaction de l'autre et on s'ajuste. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps dans les couples. Ce que je recommanderais, c'est de prendre le temps aussi de se questionner sur comment ça influence notre sexualité avec notre partenaire. On le dit, là, il n'y a pas des effets chez tous les couples, mais est-ce que ça influence ma manière de regarder ma partenaire? On le sait, dans la pornographie, c'est des corps très parfaits, souvent, qui sont véhiculés. Est-ce que j'ai les mêmes attentes envers mon partenaire? Donc, juste de prendre le temps un peu de réfléchir à effectivement, est-ce que ça influence mes scripts sexuels ou pas? Peut-être que oui, mais peut-être que ça convient à moi, à mon partenaire, mais peut-être aussi que ça l'entraîne une certaine réaction chez mon partenaire. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de se questionner par rapport à ça. Je pense qu'il faut être ouvert aussi là, aux fantasmes de l'autre pour favoriser un peu un dialogue qui est très ouvert. Donc, faut être ouvert à l'autre tout en connaissant très bien ses limites puis ses besoins. Fait que ça reste une discussion qui demande beaucoup de doigté puis de sensibilité. Ouais.
Puis justement, là, pour les cliniciens et cliniciennes qui font de la thérapie de couple, qui peuvent justement aborder la sexualité dans les séances, ben, comment on parle du sujet de la pornographie avec nos clients, sachant que ça peut être un sujet qui est très tabou encore?
Ça, c'est une bonne question. J'ai le goût de dire qu'il faut l'aborder, premièrement. La plupart des... je suis psychologue. La plupart des psychologues n'ont pas tendance à évaluer cette sphère-là. Souvent, surtout ici au Québec, on a les sexologues aussi. Donc, souvent, les psychologues ont tendance à un peu approprier la sphère de la sexologie, peut-être parfois à d'autres disciplines. C'est pas le cas de tous les psychologues, je ne veux pas généraliser du tout. Mais la sexualité fait aussi partie de l'être humain et de l'ensemble de sa psyché. Donc, ça doit aussi être évalué. Puis spécifiquement, la pornographie, maintenant que ça fait partie, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, 70 à 90 % des gens l'utilisent, donc ça fait partie de la sexualité de la plupart des gens. Donc, c'est important de prendre le temps de l'évaluer. Et le plus directement possible. Donc, je comprends que c'est un sujet tabou. Des fois, les sujets tabous, on a tendance à tourner un peu autour du pot avant d'y aller directement. Le plus directement possible est souvent le mieux. Puis, un peu une question qui prend pour acquis que l'autre personne, que le client va en utiliser parce que c'est probablement le cas. Donc, vraiment une question comme... À quelle fréquence vous regardez de la pornographie ou vous utilisez de la pornographie? Donc, une question qui est très directe, qui cible la fréquence d'utilisation. Puis là, des fois, les gens ont de la misère vraiment à situer cette fréquence-là. Donc, on peut aider un peu en donnant quelques choix de réponse, mais pas quelque chose comme une fois dans l'année. Tu sais, est-ce que c'est à tous les jours ou une fois par semaine? C'est quelque chose qui est plus dans le range du élevé que dans le très faible pour aussi favoriser justement ce dévoilement-là parce que vous l'avez dit, c'est tabou. Donc, s'assurer qu'on l'évalue très directement, la fréquence. Et ensuite, c'est là où on peut poser un peu plus des questions précises sur dans quel contexte ils en utilisent. Donc, s'ils sont en couple, surtout si on voit des couples, est-ce que c'est utilisé avec le partenaire ou pas? Est-ce que le partenaire est au courant de cette fréquence-là? Mais aussi le contenu qui est regardé. Puis ça, c'est une question que souvent on passe à côté. Toute la pornographie n'est pas égale. Si on veut, il y a des contenus qui vont être plus du type couple. Si on veut, donc, qui va avoir vraiment la représentation d'un couple qui a des activités sexuelles avec souvent un contexte romantique. Puis là, il y a des contenus aussi qui vont vers, qui sont un peu moins générales, qui vont avoir du contenu soit violent ou des pratiques sexuelles moins fréquentes. Ça peut nous donner des indices un peu sur la fantasmatique du client, mais aussi ça peut nous aider à comprendre comment ça peut influencer les scripts sexuels du couple là, par la suite.
C'est vraiment intéressant. On n'a pas vraiment parlé plus au niveau du contenu, tu sais, le type de vidéo, tu sais, par exemple, du contenu qui serait plus violent, tu sais, comment ça influence un peu au niveau de la sexualité, le type de contenu qui est visionné.
Oui, on voit que ça c'est lié. Donc souvent tout ce qui est le contenu qu'on va dire plus romantique, plus couple si on veut. Donc souvent il y a un scénario très romantisé qui est associé aux vidéos pornographiques. Les pratiques sexuelles vont être plus de l'ordre du toucher, mais il va y avoir des activités sexuelles, mais il va y avoir moins de signes de violence et les deux partenaires dans la vidéo vont avoir l'air d'apprécier ce qui est en train de se passer. Souvent, c'est le contenu qui est associé à des effets plus positifs. Et il y a le contenu plus violent où est-ce que il va avoir des gestes violents, mais aussi souvent des impressions de souvent la femme va avoir l'air de moins apprécier ce qui est en train de se passer dans les vidéos. Et c'est ce contenu-là spécifiquement là qui pourrait avoir des qui sera associé en fait négativement là à certaines composantes de la sexualité des individus. Donc je pense que c'est important aussi justement de pas tout mettre la pornographie dans la même boîte, mais de prendre le temps de regarder un peu plus qu'est-ce qui est regardé exactement dans la pornographie.
C'est super intéressant. Je vois qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais te demander un peu si tu avais une chose que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast-là. On a parlé tellement de choses, mais peut-être ce que tu trouves le plus central, peut-être.
Je pense que ce que je trouve le plus central, c'est d'envoyer le message au couple que la pornographie, c'est pas nécessairement tout mauvais ou tout bon dans votre relation de couple, qu'il faut prendre le temps de se questionner sur comment ça influence votre relation de couple à vous, puis comment vous pouvez l'utiliser là, d'une manière qui est saine et optimale dans votre relation de couple.
Super. Ben merci beaucoup Marie-Pierre d'être venue démystifier aujourd'hui le rôle de la pornographie dans la sexualité des couples. Si vous vous êtes intéressé à suivre ces recherches, on vous invite à suivre la page Facebook du Cell Lab qui va être dans la description de l'émission. Entre autres, ils ont un projet là qui va débuter en juillet, qui vont vouloir recruter des couples là, en lien avec l'utilisation de pornographie. Donc si ça vous intéresse, on vous invite à suivre leur page Facebook. Donc un gros merci Marie-Pierre. C'est la conclusion de notre série documentaire aujourd'hui. Un grand merci aussi à toutes les recherchistes qui ont collaboré sur cette émission-là. Merci également au Laboratoire d'études sur la santé sexuelle, au Laboratoire d'études du couple et au Laboratoire de recherche sur les interactions et la vie conjugale, ainsi qu'au Fonds canadien de la radio communautaire. À la semaine prochaine!
ta chance d'assister au Festif de Baie-Saint-Paul du 20 au 23 juillet prochain. Il n'est pas trop tard pour te procurer des billets de spectacle pour Emil and the Sniffers, Gabriel Chunk, Groovy Aardvark, BB Club et quelques autres au www.lefestif.ca. N'oublie pas que 40% de la programmation est gratuite et que c'est l'occasion idéale pour faire des découvertes musicales. J'ai hâte au Festif.
Je vais aller chez nous, je vais revenir, parce que j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, faites ce que vous voulez en attendant.
Yeah! Oui, salut, le Sphinx en direct de Où est-ce que tu sors de Montréal?
Je vais essayer de ne pas être trop émotif.
Bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro.
Quand tu aimais ça, la tempête de neige, puis l'énergie rock, là, à matin, il me semble que ça flaille.
Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la Rumba du samedi, tous les mercredis.
Oh, là-dessus,
la
pute? Oh, c'est correct, gars?
Yo, Montréal.
Danny, fais pas.
Prends toujours un métro pour la vie. 2 heures de marde.
Ici Vulgaire Machin, vous écoutez?
CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal.
Mais qui met de l'acide?
C'est Bless. Vous écoutez CISM. Ciao.
Creuser, creuser avec les dents. Creuser jusqu'à ce que l'on meurt.